lire un... Avez-vous un texte de l'épître de Paul aux Éphésiens? C'est une prière. Une prière qu'on cite souvent, parce que, oui, c'est des prières qui inspirent. C'est peut-être pour moi une des plus belles prières. Il y en a beaucoup d'autres qui sont belles aussi, mais celle-ci contient des accents particuliers. Et on va la lire et puis la méditer pendant quelques instants ensemble. Elle se trouve dans le troisième chapitre donc des Éphésiens, au verset 14. Et déjà, les habitués de l'écriture, vous connaissez un peu le contenu de cette prière paulinienne. Il dit à cause de cela, à cause de quoi? À cause de la révélation qu'il a reçue, à cause de la compréhension qu'il a du projet de Dieu et du mystère de ce projet. À cause de cela, est-ce que c'est moi qui ne sais pas utiliser cette... Elle est neuve, ça? Donc elle devrait fonctionner. Sinon, voilà. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. C'est pas une belle définition de la prière, ça? Des fois, on croit que la prière, des fois, c'est faire le catalogue de tous nos besoins. Il faut... C'est comme quand on va au supermarché, on fait la liste et puis on la met, voilà. Là, non, c'est une attitude de révérence, de communion avec Dieu, de soumission, d'adoration. Et tout ce qu'on peut demander ensuite ne peut être que selon son cœur et sa pensée. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom. Et derrière le nom, il y a l'identité. Toute famille, toute ethnie, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et on continue. Afin qu'étant enraciné et fondé en lui, vous puissiez comprendre avec tous les saints, tous les croyants, de quelque lieu où qu'ils soient, de quelque confession qu'ils soient, et de quelque génération qu'ils soient. Nous croyons, je fais un commentaire rapide, nous croyons à la communion des saints. C'est-à-dire que nous croyons que le peuple de Dieu est composé pas simplement de l'Église contemporaine, mais de l'Église qui nous a précédés, qui est déjà, et dont les membres sont déjà auprès de Dieu, en train de l'adorer, de prier, de le servir, et puis de l'Église à venir, tous les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quelle densité dans cette prière! Quelle richesse! On s'y perd un peu d'ailleurs. De longues phrases, des termes un peu pas toujours simples à comprendre, mais qui pourtant pour moi font écho à ce que on s'est proposé comme piste de travail, de prière pour cette année. Vous vous souvenez de cette histoire? Vous connaissez bien maintenant de ces gens qui vont voir le prophète Élisée, c'était une communauté de prophètes, et qui lui disent « Le lieu où nous habitons devant toi est trop étroit. Allons construire un lieu plus grand. » Et on a vu comment on s'identifie à cette prière nous aussi, parce que des étroitesses, ça ne manque pas en nous. Dans nos pensées, dans nos mentalités, dans notre environnement, on se sent si souvent à l'étroit. Et comme ces gens, on a décidé de se mettre au travail cette année, d'être des bâtisseurs d'espace, d'ouvrir plus grand nos cœurs, nos vies, à la présence de Dieu. Alors ça, c'est une histoire de l'Ancien Testament qui nous sert d'illustration. Mais le contenu de cette ouverture, de cet élargissement dont on parle, le contenu nous est donné ici. Et après avoir vu l'aspect de l'histoire, du symbole, de l'image, là on va voir l'aspect un peu plus théologique, un peu plus biblique. Comment est-ce qu'on s'y prend pour élargir? Élargir l'espace de ta tente, ça veut dire quoi concrètement dans nos vies spirituelles? Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? C'est ce qui me semble, c'est les réponses qui me semblent trouver, que je semble trouver dans cette prière, qui me donne quelques clés, quelques pistes, quelques éclairages pour répondre à cette question, comment construire un espace plus grand? Comment élargir? Comment s'ouvrir à ce que Dieu veut nous donner? Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais je vais quand même, à partir de cette prière, essayer de donner quelques perspectives pour rendre plus concret cette prière à laquelle nous voulons avancer. D'abord, cette prière nous renseigne sur l'espace qui doit grandir. C'est où? Où est-ce que ça se passe? Ça se passe ici ce matin, mais au-delà d'ici. Où est-ce que ça se passe, cet élargissement? Dans ce texte, on a une indication. Quel est le lieu de l'élargissement? C'est pas l'extérieur, c'est pas nos maisons, c'est pas notre territoire, c'est pas notre environnement, ce sont pas nos circonstances. On l'a déjà dit, mais j'y reviens. Ça se passe dans l'être intérieur. Ça se passe en nous. Élargir l'espace de ta tente, c'est faire de la place intérieurement. Il faut d'abord savoir comment ça se passe intérieurement. On ne sait pas trop qui on est. On est là des êtres, on porte tous un nom, on a une identité plus ou moins affirmée, on a une histoire, on a une sensibilité, et puis on ne sait pas toujours qui on est. Hein. Et on ne sait pas toujours comment on fonctionne spirituellement. On sait que quelque part il y a un cœur ici, bon je ne parle pas du cœur qui bat, mais il y a un esprit, il y a une âme. Bon, on ne va pas entrer dans ces détails-là, mais quand même. Paul prie pour que nous soyons puissamment fortifiés dans un endroit précis. C'est l'homme intérieur. Et parfois, ce qui fait notre fragilité, notre manque d'assurance en tant que croyant, c'est qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qui se passe dans l'homme intérieur. On ne sait pas toujours comment ça fonctionne. On ne sait pas toujours comment se laisser fortifier. Bon, bien sûr, on a des idées, on a des, et puis ici, il y a des vieux routiers qui connaissent bien tout ça. Mais des fois, quand on découvre le Seigneur, quand on marche avec lui, pour les jeunes convertis, on ne sait pas toujours comment ça se passe en nous. Je vais donner quelques indications rapides, juste pour identifier. Pour dire que quand il faut élargir, c'est où est-ce que ça se passe? Ça se passe dans l'homme intérieur. C'est quoi l'homme intérieur? La Bible nous dit que elle a plusieurs expressions pour nous parler de nous-mêmes. Elle parle du cœur. Et nous, quand on entend cœur, on entend souvent émotion. Non, bibliquement, le cœur, c'est aussi l'homme intérieur, c'est le siège de notre personnalité. C'est là qu'il y a à la fois nos émotions, notre intelligence, notre volonté, toute notre identité, elle est là. Et quand vous lisez homme intérieur ou que vous lisiez cœur, c'est la même réalité, où que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament. Et puis il y a d'autres textes qui parlent de l'esprit et de l'âme. Alors ça c'est encore des trucs, vous vous dites, mais où est-ce que... Eh bien l'esprit et l'âme, c'est ce qui forme l'homme intérieur. Et c'est une distinction particulière de l'homme intérieur parce que l'esprit, c'est la partie de notre être intérieur qui communie avec Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu avec une dimension de nous-mêmes intérieure, qu'on va appeler notre esprit, qui a besoin de Dieu, qui aspire après Dieu. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes créés pour cela. Et cet esprit, c'est l'esprit en nous, notre esprit, qui a besoin de transcendance, qui a besoin de communion, qui a besoin de dimensions qui dépassent le matériel, qui dépassent le quotidien. Tout le monde a un esprit avec des aspirations spirituelles. Et souvent, on répond à ces aspirations spirituelles dans toutes sortes de spiritualités que l'on trouve, qui nous sont proposées. Aujourd'hui, on compare le monde qui nous entoure à un supermarché spirituel. Il y a tellement de sensibilités, tellement de croyances, tellement de techniques, tellement de doctrines. Et c'est ce besoin de spiritualité qui conduit beaucoup de gens dans toutes sortes de recherches. Ça peut être l'occultisme et tellement d'autres choses. Parce qu'il y a un besoin de transcendance en nous. Et Dieu le sait. Et quand le Seigneur vient dans notre vie, il vient éclairer cette partie de nous-mêmes. Il vient habiter dans notre esprit. Être un croyant, c'est pas adopter une doctrine, c'est pas faire partie d'une église, c'est pas être adepte de telle ou telle technique ou je ne sais quelle telle ou telle dénomination. Être croyant, c'est avoir reçu dans cette partie de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre esprit, la présence de Dieu. Quand Jésus parle à Nicodème, qui se demandait comment avancer, comment progresser, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et tout commence dans la vie spirituelle, d'un point de vue biblique, par le fait que l'Esprit de Dieu nous révèle qui est Jésus. Et cette partie de nous-mêmes s'éclaire. Et ce matin, nous sommes vivants spirituellement parce que nous sommes en communion avec Dieu. La Bible décrit ce passage comme étant un passage de la mort à la vie. Nous avons tous un esprit, tous une dimension spirituelle, mais tant qu'il n'y a pas la rencontre avec Jésus, cet esprit est dans les ténèbres. Il est enténébré. C'est pour ça qu'il se laisse séduire par toutes sortes de fausses doctrines. Parce qu'il y a une inspiration et puis il y a des propositions qui nous sont faites qui vont dans tous les sens. Mais l'Esprit de Dieu, quand il nous révèle Jésus, éclaire notre esprit. Il vient le purifier, il vient le tourner vers l'adoration. On aime ce matin, cette dimension spirituelle, nous la vivons avec tout notre être, nos corps aussi, mais nous la vivons à l'intérieur parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ce qui nous fait vibrer à la présence de Dieu, c'est certainement notre esprit en priorité. Ce qui nous fait que, moi, une chose qui s'est passée quand mon esprit s'est éclairé, quand l'Esprit de Dieu est venu me révéler Jésus, c'est que tout d'un coup, la Bible, que je connaissais bien, pour avoir été formé, enseigné dans la connaissance biblique, plein d'histoires que je connaissais, mais c'est resté des histoires. Le moment où mon esprit a été éclairé, a reçu la présence de Jésus, à ce moment-là, la Bible est devenue un livre vivant. C'est devenu une nourriture. C'est devenu une lecture dont j'avais besoin. Et j'ai dévoré des chapitres, des livres entiers de la Bible plusieurs fois de suite. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais des dizaines de fois dans les premières semaines qui ont suivi la rencontre avec Jésus. C'est pas un effort que je l'ai pas fait parce qu'on m'a obligé. Je l'ai pas fait parce qu'on dit il faut lire la Bible. Je l'ai fait parce que j'avais faim. C'était devenu ma nourriture. Et plusieurs connaissent ça. Et puis il faut que ça continue après. Hein. Là, je parle juste de la différence. Quand notre esprit s'ouvre à la présence de Dieu, il y a des aspirations, des faims, des soifs et une communion avec Dieu qui s'établit. Alors, ça c'est l'esprit. Ce matin, mon but c'est de parler à votre intelligence, bien sûr, mais c'est de parler à votre esprit. C'est pas moi qui le fais d'ailleurs, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est parmi nous, qui parle à nos esprits. Et ce que vous allez retenir ce matin, c'est pas ma prestation, ce que vous allez retenir c'est ce que l'Esprit de Dieu va vous communiquer. Et plus notre esprit est en communion avec Dieu, plus il peut nous communiquer des choses. Et ce qui fait la qualité d'un culte, d'une réunion, d'un temps ensemble, c'est notre ouverture à l'Esprit de Dieu qui agit à travers tout ce qui se vit. L'Esprit de Dieu agit à travers l'adoration, la louange, à travers les annonces aussi, parce que c'est pas un moment qui est pas spirituel. Il agit à travers la parole de Dieu, il agit à travers les uns et les autres. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Jésus est avec nous, et c'est lui qui parle, c'est lui qui éclaire. Des fois, il va vous dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit. C'est pas grave, hein. C'est lui qui est souverain, hein. Donc je vais pas lui dire, Non, voilà, l'Esprit de Dieu nous parle. Et c'est la joie, alors des fois on dit, mais comment? Mais la joie qu'on ressent, la paix, le bien-être qu'on ressent quand on est ensemble. Il n'y a pas d'autre origine, d'autre raison que la présence de Dieu qui vient toucher notre esprit, qui nous faire du bien. Et on a besoin de ça. Et notre âme, là, elle, c'est notre identité, notre personne. Et le but de la vie chrétienne, pour fortifier son être intérieur, c'est de laisser l'Esprit de Dieu venir guérir nos émotions, notre intelligence, renouveler notre intelligence, accorder notre volonté avec la volonté de Dieu. Ce qui fait qu'on est parfois en tension, c'est parce que il y a en nous quelque chose qui nous attire vers Dieu, puis il y a aussi en nous quelque chose qui dit « Oh non !» qui résiste, consciemment, pas consciemment. Nos raisonnements qui sont là, et qui s'opposent à l'Esprit de Dieu. Donc, à l'intérieur, ça bagarre. Vous sentez ces moments-là, des fois? Je connais quelqu'un c'est pas une exception, mais je me souviens d'un témoignage de quelqu'un qui me disait, ah, des fois, je sens en moi une tension, et je me réveille dans une colère. Parce qu'il s'approchait du Seigneur, et intérieurement, il y avait le désir de connaître Dieu, et quelque chose en lui qui supportait pas cela. Jusqu'au moment où il a accepté le Seigneur. Et là, la tension est retombée. Et la paix s'est installée. Et ça, c'est vrai pour nous tous, même quand on marche avec Dieu depuis longtemps. Alors, être puissamment fortifié dans l'homme intérieur, c'est pas une option. C'est pas un plus, c'est pas fait pour les gens hyper spirituels, c'est fait pour chacun d'entre nous. C'est à chacun d'entre nous de savoir à l'intérieur de nous-mêmes comment ça se passe, et de prier, Seigneur, viens me fortifier, et d'ouvrir notre esprit, on verra plus tard un peu plus, à l'Esprit de Dieu, pour que, intérieurement, ça... Il y a des choses très simples, hein. Vous savez, quand on passe du temps sans prier, du temps sans communion avec les uns et les autres, du temps sans lire la Bible, qu'est-ce qui se passe, généralement? Quelque chose qui se rétrécit, qui se retrécit. Et là, qu'est-ce qui reprend le dessus? Eh bien, c'est pas les bons côtés de nous, hein. C'est pas nos bons côtés, vous avez que des bons côtés, mais moi j'ai aussi des mauvais côtés qui font que dès que mon esprit est moins en connexion avec Dieu, eh bien c'est ma nature qui reprend le dessus. Et ça, je le vois très très vite. Les signes sont imparables, impitoyables. Les témoins s'allument, alors... Mais pourquoi? Parce que notre esprit est ainsi privé de cette connexion avec Dieu. Au lieu de se fortifier, eh bien, on s'affaiblit spirituellement. Même après quelques semaines où on a perdu le contact avec la communauté, pour toutes sortes de raisons, ça peut être les vacances, quelque chose nous manque. Et quand on revient, ah ben voilà, ça fait du bien. Quelque chose reprend, on reprend forme, on reprend de la vigueur. C'est comme ça, c'est à ça qu'on doit être attentif. Se fortifier. Et ce que Dieu veut, c'est que notre esprit s'ouvre toujours plus à son esprit. Et on verra ça un peu plus tard. Ça se passe à l'intérieur, c'est déjà bien de savoir que élargir, qu'est-ce qu'on va élargir? Je vous dirais, mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de dire que si je me sens à l'étroit, c'est pas en faisant la guerre à ceux qui m'entourent, c'est pas en faisant la guerre à la société, au gouvernement, aux lois, au patron, ou je ne sais qui, que je veux m'élargir. L'élargissement, il vient quand mon être intérieur est fortifié par la présence de Dieu. Et là, alors, il y a une vraie liberté. Où ça se passe? Ça se passe à l'intérieur. Quel est le... Par qui? Comment? Qui est-ce qui met en œuvre cet élargissement? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient résider dans notre esprit. Notre esprit est un esprit humain. Et quand l'Esprit de Dieu vient l'éclairer, alors ils se communient ensemble. Et la présence de Dieu vient faire la différence en nous. C'est vraiment tout ce que Dieu fait, il le fait par son... C'est évident ça, hein. Mais vous savez, on terminera là-dessus. Je me demande parfois dans notre vie spirituelle la place que nous reconnaissons au Saint-Esprit. On a toujours besoin de repenser la place que nous lui laissons, de retravailler notre connexion avec lui. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait par son esprit. Et le but du Saint-Esprit, c'est de prendre tout ce qui est en Jésus, tout ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Libération, guérison, délivrance, tout ce qui nous a... Et ça, c'est vraiment des gros mots, enfin des mots qui en disent long, dans ce sens-là. Parce que derrière ça, il y a tellement de libération, tellement de plénitude. Le Saint-Esprit prend de ce qui est à Dieu, de ce qui est à Jésus, et il nous l'applique. C'est ça qui fait une foi vivante. Une foi intellectuelle, c'est connaître ce que Dieu est, ce que Dieu veut. Une foi vivante, c'est quand l'Esprit de Dieu prend de ce qui est à Dieu et nous le donne, et nous le communique, et marque nos vies par les bénédictions du salut. On a parlé de la nouvelle naissance, on a parlé de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui fait l'Esprit de Dieu? Il déverse en nous l'amour de Dieu. Amen. Sinon, l'amour de Dieu, c'est un slogan. La grâce de Dieu, c'est un truc théologique. Mais quand l'Esprit de Dieu le communique à notre esprit, ça devient réel. C'est pour ça que nos émotions sont touchées. Mais pas que nos émotions, notre intelligence est renouvelée. Il communique, il nous donne l'esprit d'adoption. Il crie en nous, Abba Père. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il nous donne des paroles de connaissance. Il nous permet de comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est des paroles de sagesse. Il nous équipe pour le travail. Des fois, tout d'un coup, au travail, dans nos activités, quelque chose, il y a une force physique qui revient. Vous savez, au travail ou ailleurs, hein. Des fois, on est épuisé, tout d'un coup. On sent un regain d'énergie. C'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui renouvelle nos forces. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui renouvelle nos forces. On n'a pas besoin de ça. Hein? Et quand on est devant une impasse, dans une relation qui est coincée, dans un problème de quelque part, au travail, je ne sais où, et que tout d'un coup, il y a une compréhension de ce qu'il faut faire, de la façon dont il faut s'y prendre, résoudre un problème, reconnecter une relation, savoir comment se comporter dans telle ou telle situation, ça vient tout d'un coup, ça s'allume là, ça s'éclaire. Qui c'est qui nous parle ainsi? C'est l'Esprit de Dieu. Donc on a besoin de lui en permanence. C'est pour ça que Paul dit, soyez remplis de l'Esprit. Et nous, parfois, on pense qu'être rempli de l'Esprit, c'est être dans une espèce de transe spirituelle où... Non. Être rempli de l'Esprit, c'est communiquer, communier avec lui en permanence. Pour qu'il nous équipe quand on prie et qu'on prenne autorité, pour qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles, mais aussi pour qu'il éclaire notre intelligence, qu'il éclaire notre compréhension, qu'il éclaire la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, si vous voulez qu'elle soit profitable, demandez à l'Esprit de Dieu de venir l'éclairer. Et tout d'un coup, elle prend vie. Et plutôt que de lire un truc, de dire, oh là là, c'est barbant, c'est long, les généalogies n'en finissent plus, les lois de Moïse, ça, franchement, c'est... oui, d'accord, c'est pas toujours, mais il y a un moment ou un autre, où si vous invitez l'Esprit de Dieu, il y a un détail, une parole, un nom, un verset, un mot qui va s'éclairer et qui va vous nourrir. Ça change tout, l'ouverture à l'Esprit de Dieu. Et puis il y a tellement d'autres choses. Et puis il vient, c'est lui qui fait porter en nous ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que toutes ces qualités qui sont la marque du croyant. Amour, paix, patience. Vous avez tout ça en vous? Vous avez tout ça en magasin? Certainement. Oh, vous allez ou vous n'allez pas? Vous allez? Ah bon, ça va alors. Et si vous avez, les provisions sont où? C'est Christ en nous, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit. Tout d'un coup qui transforme nos impatiences, même le manque de maîtrise de soi, je ne sais quoi. Notre tristesse, c'est lui qui transforme tout cela en joie, en paix, en bénédiction. Donc, connecter avec lui, c'est important, c'est à travers lui que ça se passe. Donc il nous faut une connexion avec lui qui soit toujours plus précise, toujours plus personnelle, toujours plus intense, parce qu'il est la source de tout. Soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur par l'Esprit de Dieu. On va aller un peu plus vite. La suite, c'est ce que je viens de dire là maintenant, c'est il fait quoi l'Esprit de Dieu en nous? Est-ce qu'il nous donne juste des émotions, juste du bien-être, de quelque chose de comme ça, d'émotionnel, de passager? Non. Il construit en nous. Il construit la nouvelle nature. Et ça, c'est le contenu. Qu'est-ce qui fait l'Esprit de Dieu? Quel est le repère? À quoi est-ce qu'on reconnaît l'Esprit de Dieu? C'est que tout ce qu'il va faire en nous, c'est à l'image de Jésus. Ça, c'est le contenu. Être puissamment fortifié à l'intérieur, c'est pas se sentir... Non, c'est Christ qui grandit en nous. C'est une nouvelle nature qui se développe en nous. Et c'est la suite ici. Le contenu, c'est pas très beau comme nom, vous pouvez changer, mais c'est Christ en nous. Comment est-ce que l'Esprit nous fortifie? Qu'est-ce qu'il vise quand il agit en nous? C'est faire grandir la nature de Christ en nous. C'est du basique. Mais c'est des choses parfois qu'on oublie, parce qu'on est dans des recherches de notions extrêmement élevées, extrêmement... Mais on oublie le fondement auquel on est. On oublie parfois le cœur de ce que Dieu veut faire en nous. Aujourd'hui, on parle des racines. Hein, nos ancêtres, les Gaulois, je ne sais quoi. Ben, je ne sais pas si c'est les vôtres, mais ce n'est pas les miens. En tout cas, moi, je ne suis pas issu de Français. Mais la Bible parle de nos racines aussi. Il y en a deux. Bon, elle ne nie pas les appartenances ethniques, bien sûr. Mais il y a deux origines, deux identités. Soit on est en Adam, soit on est en Christ. Voilà. On est tous nés physiquement et spirituellement en Adam. C'est-à-dire qu'on est tous issus de la postérité d'Adam. Et Adam est celui qui a entraîné l'humanité dans le péché et qui fait que notre nature adamique est marquée par le péché. Et c'est ça qu'on appelle la chair, bibliquement. C'est notre nature héritée d'Adam, marquée par le péché. Tout ce qui nous déforme, c'est pas compliqué à découvrir, à discerner tout ce qui est déformé en nous, tout ce qui est malade, tout ce qui souffre, tout ce qui fait mal, tout ce qui est rétréci, tout ce qui est étroit. C'est la nature adamique. Alors chacun, on le décline à sa façon. Hein. On est tous des petits Adam et Ève à sa façon, mais n'empêche que notre nature en nous, elle est bien marquée, bien défigurée. Ce qui fait, c'est ce que Paul dit, hein, je fais le mal que je ne voudrais pas. C'est quoi ça? C'est le désir de faire le bien, mais bloqué par une puissance qui habite en nous, qui est la puissance du péché, qu'on ne peut pas, par nous-mêmes, surmonter et gérer. Alors, ça c'est la nature adamique. Quand vous parlez de votre caractère, dans ses mauvais aspects, quand vous parlez de votre tempérament, c'est la nature adamique. On est soit en Adam, soit en Christ. Être né de Dieu, c'est avoir reçu la vie de Christ et être né de nouveau et avoir reçu la présence de Christ en soi. Et c'est ça le processus de la vie chrétienne. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, à travers nos identités, nos personnalités, mais c'est sa personnalité qui va son caractère, son amour, sa bienveillance, sa bonté, sa justice, sa nature qui va grandir en nous. Et vous pouvez vite discerner si dans vos paroles, vos comportements, vos relations, c'est la nature adamique qui a pris le dessus ou si c'est la nature de Christ. C'est facile, hein? Ça va vite. Et c'est ça le but de ce que Dieu fait en nous, c'est que il construit la nature de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Je vis aujourd'hui dans la foi au Fils de Dieu, il vit en moi. C'est une position de foi, on va y revenir. Christ vit en moi. Ce qui fait qu'on est puissamment fortifié dans l'être intérieur, c'est quand on laisse la nature de Christ vivre en soi. Et quand on lui laisse la place, l'élargissement de notre être intérieur, c'est permettre à Christ de se développer en nous. Spirituellement, on naît comme un bébé, on grandit comme un ado, on avance comme un jeune adulte, et ensuite on entre dans la maturité. Ce sont les étapes de la croissance. Et parfois, on est un peu tout à la fois. Hein. Il y a des ados qui sont encore des adultes qui sont parfois des côtés ados, etc. On est un mélange de tout ça. Mais il y a des bons côtés dans chacune de ces étapes. Et Dieu veut nous conduire vers la maturité, vers la... Pourquoi? Parce que la maturité, lui comment? C'est la capacité d'enfanter. C'est être des parents. Christ en nous, et la croissance de Christ en nous, être puissamment fortifié, c'est pas exercer, c'est pas entrer dans son appel au sens individualiste, c'est pas exercer son ministère dans le but d'épanouissement personnel, c'est la capacité d'enfanter, capacité de transmettre, capacité de former. Et c'est ça le signe de la maturité de Christ en nous. On est tous appelés à être des parents spirituels, à donner la vie à ceux qui nous entourent et à les accompagner dans la vie spirituelle. Et c'est ça qui fait une église majeure, une grande majorité est composée de parents spirituels. Dans qui Christ est formé. Ça veut dire qu'ils sont parfaits, ça veut dire qu'ils dérapent jamais, pas du tout. Mais il y a ils sont enracinés en Christ. Sont fondés en lui et dans l'amour toujours. Et on peut être parent spirituel même quand on est jeune. C'est pas une question d'âge. C'est juste une question de perspective. En quoi est-ce qu'on reconnaît que on se fortifie intérieurement par l'esprit? Ben parce que Christ grandit en moi et on le reconnaît vite. Christ en soi. Dans la communion fraternelle, ce qui nous unit les uns aux autres, c'est parce que je vois Jésus en toi. Je vois pas que Jésus. Ça dépend si je prends la poutre ou la paille. Mais la communion fraternelle se bâtit pas sur le fait qu'on a des affinités, qu'on s'entend bien, que... Non, on ne s'est pas choisi les uns les autres. Hein. Oh, ça commence à être un peu... Non, on ne s'est pas choisi. Dans une famille, on ne se choisit pas. Et qu'est-ce qui fait qu'on est unis ensemble? On est ensemble, tournés vers le Seigneur, vers l'amour pour lui, et cet amour pour lui nous donne l'amour les uns pour les autres. Et on voit... dans chacun de ceux qui nous entourent, les marques de qui est Jésus. Et ce qui fait qu'on peut avoir de l'honneur les uns envers les autres, c'est pas parce que on aime passer la brosse à reluire ou la pommade, je sais pas, non, c'est parce qu'on voit l'œuvre de Dieu dans la vie de chacun. Chacun de nous est un reflet de qui est Christ. C'est magnifique, hein? Personne ne peut à lui tout seul, rayonner de la gloire. Non, chacun a des aspects particuliers. Eh bien, notre communion fraternelle, elle se nourrit de la vision de Christ dans chacune de nos vies. Ça change tout. Ça permet de passer au-dessus des difficultés, des, parfois des frictions, des fortement. Non, bon, d'accord. On a chacun nos aspects hérités d'Adam, très bien. Mais on sait qu'au-delà de ça, Christ est en chacun ici. Et dans l'éternité, ce qui fera, je ne veux pas trop développer, ce qui fera notre l'atmosphère du ciel sur la terre, c'est que Christ sera pleinement manifesté en chacun de nous. Et on sera devenu nous-mêmes. On aura chacun une dimension de perfection qui reflétera un aspect de la nature de Christ. Et donc on aura une communion les uns avec les autres, mais alors un degré, vous savez, ce sera pas du très haut débit, ce sera du... encore plus, une connexion, parce que Christ sera tout en tous. C'est ça le but de Dieu. Il rassemble sa famille, il les fait grandir à sa ressemblance, il fait grandir son Fils en chacun d'entre nous, et puis ensuite, chacun deviendra dans la pleine maturité, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous me suivez là, ça va? Parfois, je comprends que c'est pas... Mais enfin, je le dis, je préfère le dire, même si c'est parfois pas toujours très, très simple à saisir, l'Esprit de Dieu lui peut nous le faire comprendre. C'est ça qui fait la communion fraternelle, parce que Christ est en toi. Je reconnais que Christ est en toi, et j'aime ce que Christ fait en toi. Et je te le dis, des fois on a un peu de mal hein, à accepter ou à formuler ce qu'on croit être des compliments. C'est pas des compliments, c'est de l'honneur. C'est rendre gloire à Dieu. Quand quelqu'un rend témoignage, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce que Christ a fait dans sa vie. Mais c'est passionnant, et on aime l'œuvre de Christ, et on le dit à la personne. Ah, on est heureux. Cette guérison, cette réponse, de cette bénédiction, ah, ça c'est Jésus en toi, c'est Jésus avec toi, et ça nous nourrit, ça fait du bien. C'est pour ça qu'on a envie d'être ensemble. On n'a pas assez d'affinité à 50, 100, 200, 300 pour avoir envie d'être ensemble. Ou alors il faudrait qu'une passion qui nous... J'étais hier à l'aéroport, et pendant le temps où on attendait les avions, j'ai vu plusieurs personnes, d'un âge certain, se mettre 4 par 4, là, autour de moi, et puis d'un coup sortir des cartes et tous taper la belote. Ça devait être des amis. Mais ce qui les rassemblait, c'est qu'ils étaient sûrement venus à Paris pour jouer à la belote ou au concours, je ne sais pas, je n'ai pas voulu leur demander, parce qu'ils étaient tellement occupés à battre leurs atouts que... Et voilà, ils étaient rassemblés par une passion commune. Ben nous, on a plein de passions ou de trucs qui prennent mais qui sont pas nécessairement communes. Donc ce qui fait qu'on a envie d'être ensemble, c'est qu'on a envie de la connexion. Le corps de Christ, c'est ça, mes amis. C'est Christ en chacun qui fait que on a besoin les uns des autres. On a besoin d'être fortifié, d'être porté. On a besoin de voir Jésus dans chacun des autres. Voyez nos rassemblements, voyez tous les événements qui ont été évoqués, comme ça, la possibilité, la chance de voir Christ dans la vie de ceux qui vous sont donnés comme frères et sœurs. Il est le premier-né de la famille, et nous sommes les petits frères et sœurs, mais en qui il demeure. Amen. Christ en nous, Christ en nous. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, ça aide bien pour se fortifier, c'est-à-dire Jésus, être libéré, être élargi, c'est-à-dire Jésus, vis en moi. Prends la place qui te revient. T'es en voiture, tu sens que ça commence à monter, la moutarde commence à monter, dis, hop, 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 Jésus, viens. Moi, je le dis un peu tard des fois, c'est mes fins. Non, de moins en moins. Hein, je vous ai raconté toutes mes péripéties là-dessus. Ça va. Mais quand même, des fois, voilà, Jésus, viens. Le témoignage, c'est quoi? C'est pas parler de Jésus. D'accord? C'est pas parler de Jésus. Seulement. C'est être témoin de qui il est. C'est le laisser rayonner à travers nous, y compris par nos silences. Mais nos attitudes, moi je me dis des fois, je suis préoccupé dans mes pensées, je suis en ville, ça, bon, est-ce que je rayonne de Jésus? Oups. Je suis plutôt dans mes préoccupations, dans mes... Ce que nos voisins ont besoin de voir en nous, c'est Jésus. Par l'amour, la patience, le pardon, la joie, l'espérance, la paix, c'est ça, témoigner. Et la parole vient en plus. Elle vient souvent après. Elle peut venir avant, on va pas faire des longs, mais elle peut venir après. Et elle peut venir même très longtemps après. C'est pas grave. Je dis pas qu'il faut pas témoigner, qu'il faut pas parler, je dis simplement que il faut d'abord rayonner de qui il est, Christ en nous. Est-ce que dans mes relations, dans ma façon de parler, du temps, du beau temps, de la politique, Est-ce que c'est Jésus qui passe ? Je viens de rédiger un texte, une déclaration, au nom de notre conseil apostolique, pour nous aider les uns et les autres à mettre en cohérence notre foi et notre comportement et nos paroles dans cette période d'élection. Ça veut dire quoi être citoyen du ciel et citoyen de la terre ? Comment est-ce qu'on harmonise les deux ? Est-ce que Jésus s'exprime à travers nous quand nous parlons politique ? Avec nos idées, nos opinions, nos sensibilités différentes. Et ce n'est pas un problème, ça. On ne votera pas la même chose les uns et les autres. Et c'est très bien. Mais ce qui est important et ce qui fait qu'on est des témoins, c'est que la façon dont on agit, dont on se comporte, reflète quelque chose de Jésus. Ça veut dire que je refuse le mépris, le dénigrement, les raccourcis, les malédictions. J'ai vu ça, notamment sur Facebook, des fois, des paroles incroyables sortir de la bouche ou de la plume du clavier des chrétiens à l'égard de tel ou tel homme ou femme politique. Mais dire, mais attends, mais qui est-ce qui parle là? Qui est-ce qui parle? Ça veut dire qu'on doit être d'accord avec tout. Mais ça veut dire que même si on n'est pas d'accord avec tout, on doit savoir le dire en reflétant Jésus. Donc voilà, c'est ça. Christ en moi, c'est Jésus, élargi. Le mode, c'est la foi. Et comment ça se passe ? Mais il faut en faire des efforts pour... Non, voilà, ça c'est le bon moment où vous pouvez vous reposer, vous détendre, puissamment fortifié dans l'homme intérieur, par l'Esprit de Dieu, en sorte que Christ habite en nous, que nous sommes enracinés, fondés dans l'amour, que Christ habite en nous par la foi. Et c'est là que on n'est pas dans les œuvres, on n'est pas dans la tension, la pression religieuse de devoir créer par nous-mêmes toutes ces conditions. On est dans le fait, on reçoit. Jésus, c'est par la foi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne le dis pas parce que je le vois seulement, je ne le dis pas parce que je suis arrivé à J'ai entendu ça des fois, même des prédicateurs disent, vous voyez, rendez compte, Paul pouvait dire ça à la fin de sa vie, alors que c'est même pas la fin de sa vie qu'il écrit les Galates, mais bon, à la fin de sa vie, il pouvait écrire, Christ en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel progrès, quel chemin il avait parcouru, mais pas du tout. C'est pas les années qui font grandir Christ en nous, c'est la foi. Au moment de la nouvelle naissance, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a toute la vie pour qu'il prenne toujours plus de place, mais c'est par la foi qu'on le dit. C'est pas parce qu'on peut cocher les cases, oui là, paix, ok. Amour, ok. Patience, ok. Et comme j'ai la majorité, j'ai une bonne note, Christ vit en moi. Ah, ouf! Mais non, c'est par la foi. C'est pour ça que des fois, vous savez, on peut être submergé par une réaction de nous-mêmes, hein, on a parlé d'Adam, hein, la nature animique, et aussitôt se repentir et dire Seigneur, pardon, et là changer. Ça prend pas des années, ça prend pas des siècles. C'est juste que on choisit sur qui on se branche. On choisit sur qui on connecte. Je me connecte avec Jésus, l'Esprit de Dieu en moi. Ouf. Ça peut demander de la prière, ça peut demander de la délivrance, ça peut demander de la relation d'aide, de la guérison, mais n'empêche que c'est la foi qui fait la différence. Amen. Le mode, c'est la foi. Et le fruit, je termine par là, c'est toute la dimension du projet de Dieu. Dernier point qui va arriver. En sorte que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. C'est-à-dire toute la dimension de Dieu. Alors des fois, certains ont dit oui, la largeur, la longueur et connaître l'amour de Christ, donc il est question de connaître toutes les dimensions de l'amour de Christ. Non ? Il ne s'est pas indiqué, vous avez lu avec moi ? Afin de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, virgule, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est l'amour, mais c'est toute la dimension de Dieu. Il y a une dimension de l'amour de Dieu, de la personne de Dieu, qu'on n'arrive pas à décrire. Alors Paul parle de longueur, de largeur, de hauteur, de profondeur. C'est-à-dire que nous, on n'est pas simplement dans la mise au large, là, au sens de la surface. On est dans la mise au large dans toutes les dimensions. Profondeur, largeur, hauteur, longueur. D'accord ? Élargir l'espace de ta tente, c'est pas juste en surface, c'est pas juste de l'extension géographique, c'est en profondeur, en hauteur, en largeur, en longueur. On veut grandir dans tous ces domaines. Vous me dire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des dimensions spirituelles, d'autorité, de foi à découvrir. C'est symbolique, vous comprenez ? Ça exprime une plénitude de Dieu et pas des choses qu'on peut mesurer. Voilà. Quand nous sommes fortifiés puissamment par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur, que Christ habite en nous par la foi, eh bien, nous pouvons comprendre. Enfin. Mais, quand je dis enfin, c'est pas que ça prend du temps. C'est parce que c'est le chemin. Je peux comprendre. Et je peux m'élargir à la dimension de Dieu. Je peux être enraciné, fondé dans l'amour. Et, par l'Esprit qui habite en moi, alors, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Et là, on est dans l'accomplissement, le déploiement de tout le projet de Dieu pour nos vies personnelles, mais pour l'Église. C'est dans l'Église, dans les générations qu'il le fait. On est bien dans l'élargissement, là. On est bien dans la... Seigneur, est-ce que vous croyez que Dieu n'a pas beaucoup plus que ce que nous vivons individuellement, en famille, et pour notre Église, et pour notre nation en France ? On est content de ce qu'on vit, on est reconnaissant, il ne s'agit pas d'être dans la frustration, mais quand même, il y a quelque chose de plus, il y a toujours plus. C'est pour ça qu'on dit c'est trop étroit. Seigneur, plus de ton salut, plus de ta guérison, plus de ta présence, plus de ta joie, plus de ton intervention, plus de ta justice. Plus. Amen. Élargis, comble, bien habiter, bien remplir. Eh bien voilà, ça correspond à ce que Dieu dit. On a de la chance, hein. Ce qu'on aspire, ça correspond à la prière de Paul. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Et bien voilà. Élargissons notre être intérieur à la dimension du projet de Dieu. Il y a plein de choses dans lesquelles on est, à l'étroit, bloqué, scotché, mais pas dans le bon sens, on est lié. Et bien voilà, Dieu va ouvrir. Oui, Dieu va ouvrir. Tout ce que le péché a fermé, tout ce que notre nature adamique a limité, a tenu à l'étroit, Dieu va ouvrir tout ça. Par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, par sa présence. C'est une position de foi que nous devons avoir, et Dieu va le faire. Ça va le faire. Alléluia. Ça nous assoit un peu, ça nous dépasse un peu, mais c'est pas grave, c'est, heureusement. Écoutez, si on n'était pas dans quelque chose qui nous dépasse, c'est pas la peine. Hein. Si le projet de Dieu est à la mesure de ce qu'on peut comprendre, alors c'est plus le projet de Dieu, c'est notre projet à nous. Hein. Si nos rêves ne vont pas bien plus loin que ce que nous pouvons voir, alors c'est plus... Non, mais là, ça nous dépasse. Il y a de l'avenir. Dieu fait des choses nouvelles dans nos vies, dans l'Église, dans les nations, que nous ne croyons pas, même si on nous les racontait. Voilà ce que la Bible dit. La gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première. C'est Dieu qui agit. Sa gloire vient. Les ténèbres viennent, mais la gloire vient. La nuit vient, mais le matin vient aussi, en même temps. Et nous allons vers cela. Alors l'année ne va pas être simple, hein, parce qu'il va falloir un peu pousser les meubles à l'intérieur. Il va falloir un peu faire de la place. Et Dieu va nous bousculer d'une manière ou d'une autre, pas pour nous mettre en difficulté, pas pour nous être désagréable, mais juste parce que, voilà, il faut qu'on confesse que on est vraiment à l'étroit. Il faut qu'on se repente de cela. Et ce à quoi je vous invite maintenant, c'est à accueillir l'Esprit de Dieu, puisque c'est par lui que ça se fait. Je vous rappelle un moment que vous avez tous lu, ou plusieurs en tout cas, quand Apollos va à Éphèse, justement l'épître aux Éphésiens, il rencontre un groupe de gens, de disciples, et il leur dit, il les trouve vraiment bien établis, mais avez-vous reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu? Il avait un doute, là. Des gens qui, pourtant, manifestaient la soif. Avez-vous reçu? Et puis, vous savez ce qu'ils lui répondent? On n'avait même pas entendu parler qu'il y avait un Esprit Saint. Alors, Apollos va prier pour eux. Et là, l'Esprit de Dieu va les remplir. Ils vont se mettre à parler en langue, à prophétiser. les multiples façons par lesquelles l'Esprit de Dieu nous remplit, hein, et ils vont recevoir l'Esprit de Dieu. Alors je sais que nous ici, plusieurs, ont déjà reçu l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui ont dit « Jésus, viens dans ma vie », vous avez déjà reçu l'Esprit de Dieu. Si tu ne l'as jamais dit, tu peux dire « Seigneur, viens, Jésus, viens dans ma vie, je veux t'accueillir, je me sens trop à l'étroit, ah, j'ai envie que tu viens ». Et il va le faire. Ce qui fait qu'ensemble, je vous invite à recevoir. On va se poser la question, est-ce que tu as vraiment reçu l'Esprit ? On ne va pas mettre en doute ce qu'on vit avec l'Esprit de Dieu. On va juste dire, est-ce que j'ai laissé assez de place à l'Esprit de Dieu dans ma vie ? Est-ce que je connecte suffisamment avec lui pour qu'il élargisse en permanence mon être intérieur et qu'il me fortifie ? Ou est-ce que je lui fais une place un peu à l'étroit comme ça ? Non, est-ce que je reçois ? Est-ce que j'ai reçu ? Est-ce que je reçois l'Esprit de Dieu ? Est-ce que je travaille à élargir ma réceptivité, mon ouverture à son esprit ? Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu ? Voulez-vous recevoir à nouveau l'Esprit de Dieu ? Voulez-vous recevoir de plus en plus l'Esprit de Dieu ? Voulons-nous faire encore plus de place à son esprit ? Quelle que soit la forme que sa présence peut prendre, ça peut être le silence, ça peut être le bruit, peu importe, c'est pas la question, c'est lui qui est important. Chacun le vit à sa façon, on n'est pas là. Moi, je trouve qu'on a eu des moments où on pensait que l'Esprit de Dieu, ça devait agir quand les gens tombaient, s'ils tombaient pas, c'est pas bien, pas normal, etc. C'est de la foutaise. D'accord? C'est scandaleux. Parce qu'on enferme l'Esprit de Dieu dans une espèce de mode d'action qui est le critère. J'ai vu même des gens qui mesuraient l'onction de ceux qui priaient à la façon dont les gens tombaient. C'est en nous, ça, c'est comme ça. Mais ça, il faut s'en libérer, c'est encore une étroitesse. Que tu restes assis, que tu tombes ou pas, ou que tu sois debout, ça n'a aucune importance. Qu'il y ait du bruit. Il y en a qui sont baptisés dans le Saint-Esprit en parlant langue discrètement, personne ne s'en rend compte. D'autres, ils sont saisis, ben voilà. Peu importe. J'ai pas à choisir, j'ai pas à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'ai pas à dicter à Dieu. J'ai juste à m'ouvrir à l'Esprit de Dieu. Avez-vous reçu ? Est-ce que je suis prêt à recevoir l'Esprit de Dieu ? Est-ce que je suis prêt à lui faire de la place dans mon caractère, dans mon travail, dans mes relations, plus de place encore dans nos rassemblements ? Plus de place dans le lieu où je vis, où j'ai voulu, dans mon quartier, dans notre ville, notre pays. Vous parlez de réveil ? On aspire au réveil ? C'est quoi d'autre le réveil que l'Esprit de Dieu qui prend plus de place, la place qui lui revient. Alors, en se tenant devant Dieu, Seigneur, je veux te recevoir. Je veux recevoir ton esprit. Je veux encore communier avec toi. Je veux que tu fasses de la place. Là où ça coince, là où ça se ratatine, ça se rabougrit, viens. Allez, viens. Esprit de Dieu, viens. Élargis. Approfondis et élargis. Et Dieu le fait. Parce qu'il sait exactement ce pourquoi il a donné Jésus. On ne va pas demander une faveur à Dieu en faisant cela, on va simplement prier pour que ce qu'il a décidé en Jésus s'accomplisse dans nos vies. D'accord ? On ne va pas mendier, on ne va pas dire « Seigneur, je t'en supplie ». Non, non, on va juste accueillir, recevoir. On a du mal à recevoir, mais on va apprendre à recevoir. On va prier. On se tient devant nous quelques instants ensemble pour juste vivre ce moment là de réceptivité. On parlait de lâcher prise, c'est une façon de dire ben, Seigneur, je te reçois, je tombe pas dans le vide, je tombe dans tes bras, dans ta présence. Et puis à la fin de ce moment, alors Guillaume et Xavier prendront le relais pour le temps de jeûne et prière, on vous avertira. Mais d'abord, vivons ce temps dans sa présence. As-tu reçu l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, tu es là. C'est grâce à toi que Jésus est présent parmi nous. C'est toi qui vis en nous, c'est toi qui nous rassemble. C'est toi qui te manifestes. Et individuellement, mais aussi en tant qu'Église, nous voulons reconnaître que parfois nous ne te recevons pas comme tu l'attends. Parfois nous limitons, nous enfermons, nous conditionnons ta présence, ton œuvre. Et Seigneur, pour cela nous te demandons pardon. Pardon pour tout ce qui en nous est à l'étroit, traditions, nos habitudes, nos craintes, nos peurs, nos ignorances, et qui ne te permettent pas de prendre la place qui te revient, Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Saint-Esprit, je veux te recevoir. Je veux apprendre à te recevoir, instant après instant. Si vous cherchez une signification de la maison de prière ou des temps de prière personnels ici et là, qui font partie de la maison de prière, ça n'a pas d'autre objectif que de le recevoir, de l'accueillir, de lui dire « Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Saint-Esprit, viens, viens. » Laissez le Seigneur montrer les endroits où il voudrait venir un peu plus. Son esprit voudrait agir, voudrait faire son œuvre de guérison, de transformation, de... Et dans ces domaines-là, remettons-les lui, chacun à notre place. Dire Seigneur, je te remets ce domaine, je t'ouvre ce domaine, je te reçois là. Vous nommez l'endroit, je te reçois dans mes émotions, je te reçois dans mon corps pour la guérison, je te reçois dans mes relations, je te reçois dans la révélation que j'ai besoin de Jésus, de Dieu, je te reçois, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut renouveler notre engagement envers Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Et ce matin, envers le Saint-Esprit en particulier, pour dire si nous voulons être une famille spirituelle, une église qui te reçoit vraiment. Alléluia. Je fléchis le genou, Seigneur, devant le Père. Je fléchis le genou devant le Fils. Je fléchis le genou devant l'Esprit Saint. Et nous t'accueillons ensemble, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous t'accueillons, Seigneur. Certains commencent à penser à la façon dont ils gèrent leur temps, ils gèrent leur journée, ils vivent leur temps de prière. Est-ce que dans ton culte personnel, est-ce que c'est juste un monologue? Une succession de demandes, ou est-ce qu'il y a un temps où tu le reçois, où tu l'accueilles? Devant les défis, devant les objectifs atteints, devant les circonstances difficiles, au travail, à la maison, devant une relation tendue. Seigneur, nous te recevons. Saint-Esprit, nous te recevons. Alléluia. Viens fortifier tout ce qui est faible. Viens nous enraciner en toi. Viens nous fonder dans ton amour, Seigneur. Viens déverser en nous l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si pour toi la relation avec Dieu c'est sec, c'est un terrain aride, c'est dur, c'est désertique. L'Esprit de Dieu est là pour remplir et déverser l'amour de Dieu dans ce qui est sec, dans ce qui est aride. Tu accueilles simplement. Saint-Esprit, je te reçois. Déverse en nous. Déverse en moi l'amour de Dieu. Alléluia. Faisons nos délices de sa présence. Nos délices de ce qu'il nous donne, de ce qu'il nous dit, de ce qu'il nous révèle, de ce qu'il fait, de ce qu'il nous montre. Alléluia. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, il nous le donne, il vient. Et il élargit, il élargit, il élargit. Alléluia. Korobaba sheketen masokorobatend. Yoromahan sokedebaratend. C'est un engagement. Je vous demande vraiment, là maintenant, de penser à ce moment comme un temps d'engagement nouveau. Je crois qu'il y a de nouveaux départs dans la relation avec Dieu et dans la relation avec le Saint-Esprit, pour plusieurs. Il y a de nouvelles compréhensions, de nouvelles considérations qui doivent prendre place pour que nous soyons puissamment fortifiés par l'Esprit dans l'homme intérieur. Et pour que la plénitude du projet de Dieu se mette en place. Il y a des appels, il y a des visions, il y a des aspirations, il y a des projets qui vont prendre vie, qui vont prendre forme si nous le recevons encore. Si nous le laissons prendre en main, si nous le laissons occuper. Il y a des choses inédites. Il y a des choses complètement innovantes qui vont, que nous allons, dans lesquelles nous allons entrer, dans lesquelles nous allons vivre, sur le plan artistique, sur le plan prophétique, sur le plan apostolique, sur le plan de notre quotidien, de nos engagements dans la société. Il y a des choses qu'on n'a jamais imaginées, qui vont se mettre en place, qui vont venir comme des fruits mûrs, simplement si nous l'accueillons dans notre âme, notre être intérieur. Alléluia. Il y a des rêves secrets qu'on ne doit même jamais parfois oser parler, faire part, tellement ça nous paraissait fou, que Dieu va réveiller, que Dieu va accomplir, simplement parce qu'il prend la place qui lui revient. Alléluia. Tu pourras dire, j'en ai rêvé, Dieu l'a fait. Oui, le Saint-Esprit l'a fait, si tu lui laisses la place. Amen. Il y a des conversions autour de toi, il y a des réconciliations dans ta famille, il y a des domaines dans lesquels tu dis, mais comment reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Il va te donner la force de persévérer, d'endurer encore. Mais tu le feras avec sa force. Mais il peut aussi déclencher le miracle, si c'est le temps de Dieu. Amen. Recevons l'Esprit de Dieu. Recevons l'Esprit de Dieu. Quand nous parlons en langue, c'est une façon de lui laisser la place. Quand nous proclamons tout ce qu'il met dans nos cœurs comme foi, comme prise de position, c'est une forme de prophétie, parce que nous déclarons ce que Dieu nous montre, ce que Dieu nous dit, et nous nous faisons la place, et nous transformons le quotidien par la parole prophétique qu'il nous donne. Alléluia. Et nous sommes dans une position de règne, d'autorité, parce que Christ en nous règne. Alléluia. J'aimerais qu'on continue d'accueillir. Il y a des choses nouvelles. Inattendu, inédite, que Dieu veut faire alors qu'on l'accueille. Amen. Et pour ceux qui veulent renouveler leur alliance, ou peut-être faire une première alliance avec le Saint-Esprit, vous me direz, c'est quoi ça? Eh bien, c'est juste un engagement, c'est juste une prise de conscience de ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans nos vies et dire, Seigneur, je veux m'ouvrir, je veux me donner à toi. Je veux t'accueillir d'une façon nouvelle. Si c'est votre cas, vous pouvez vous lever à votre place. Nous aurons un temps collectif ensemble en Église. Mais là, je demande juste à chacun de considérer sa voix. Et je répète cette question. Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Il y a des révélations du ministère du Saint-Esprit, de sa personne, qui doivent être encore déversées dans nos vies. Mère nouvelle. Il y a des choses qui doivent être élargies concernant la personne de l'Esprit de Dieu. Et la réponse et la question est, veux-tu recevoir l'Esprit de Dieu? Veux-tu l'accueillir? Alléluia. Veux-tu l'accueillir? En tout cas, je suis debout dans sa présence. Et oui, Seigneur. Oui, pardon. Parfois, pour le peu de cas, le peu d'attention, le peu d'ouverture, le peu de sensibilité, le peu de connexion avec toi. Pardon pour cela, Seigneur. Mais je veux recevoir ton esprit. Je veux te recevoir. Amen. Veux-tu recevoir Saint-Esprit? Alléluia. Merci pour ce que tu ouvres dans nos vies, Seigneur. Merci pour les aspirations que tu crées, les langues que tu produis. Te rendons grâce pour cela. Et nous croyons que ce temps sera suivi d'effets, d'élargissement, de libération, de croissance. Alléluia. C'est vrai individuellement, mais c'est vrai en Église aussi. J'aimerais là, cette fois, m'adresser à l'Église. Voulons-nous être une Église qui reçoit le Saint-Esprit? Dans nos stratégies, dans nos projet, notre façon de vivre, de nous organiser. Voulons-nous recevoir le Saint-Esprit? Et là, c'est à l'Église que je parle. Si tu es prêt, en tant qu'Église, à te joindre dans ce mouvement pour recevoir, alors levons-nous ensemble. Et nous allons faire une nouvelle consécration, une nouvelle alliance avec Dieu. Ce n'est pas notre arrière-plan pentecôtiste, charismatique, qui garantit le fait que nous recevons l'Esprit de Dieu. Ça peut même parfois être un obstacle. Parce qu'on croit savoir, on croit avoir déjà tout vu. Seigneur, alors que tu nous appelles à nous élargir, à construire un espace pour toi plus grand, nous voulons te recevoir. Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir. Nous voulons te dire bienvenue. Bienvenue. Et en disant cela, nous voulons te laisser grand la porte ouverte. Alléluia. Il y a de nouvelles pensées, de nouvelles visions, de nouvelles injonctions, de nouvelles inspirations, de nouvelles impulsions qui vont être données aux uns aux autres. Tu ne sais même pas d'où ça va venir, mais quelque chose va se passer. Ah ben oui, c'est l'Esprit de Dieu. Nous l'avons accueilli. L'équipe, tous ceux qui sont impliqués dans les enfants, dans le travail, le service, l'organisation, la direction pastorale, il y a des choses nouvelles que Dieu veut nous faire voir parce que nous le recevons. Parce que nous le recevons. Amen. On ne veut pas gérer les choses parce que, comme on l'a toujours fait, on veut les gérer dans la direction de lui, où il veut aller, lui. Amen. Alléluia. Nous voulons te recevoir, Saint-Esprit. Bienvenue, 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 bienvenue. Et pardon, pardon, pardon pour l'étroitesse. Pardon pour tout ce qu'on n'a pas saisi de tes injonctions, de tes pensées, de tes directions. Pardon, Seigneur. Mais merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Avec le Saint-Esprit, mais on le compare souvent à la colombe, toute douce, là, mais il n'est pas fragile. Hein. Il n'est pas susceptible. On peut l'attrister, mais on l'attriste quand on se prive nous-mêmes de ce qu'il veut nous donner. Et quand on revient vers lui, alors il se réjouit. Il connecte et il ouvre, parce qu'il est Dieu, plein de grâce. Et il ouvre ses ressources. Il ouvre ses ressources et il donne, il répand. J'appelle un baptême, j'appelle une immersion, j'appelle une effusion de ton esprit nouvelle, Seigneur, au milieu de nous. Alléluia. Pas simplement dans nos rassemblements, mais dans nos lieux de... dans nos prières personnelles, dans nos lieux de travail, dans nos trajets en voiture, partout où nous sommes, un lieu, un temps d'effusion, où tu viens, nous te faisons la place, et où tu prends les choses en main pour donner gloire, 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 gloire à Jésus. Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus, pour annoncer Jésus, pour rendre Jésus réel au milieu de nous, pour que sa présence soit encore plus manifestée par des signes, des prodiges, des miracles, par des réconciliations, par la justice. Étends ta main, Seigneur. Formons-nous la nature de Christ et forme au milieu de nous la plénitude de Christ au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus, pour le salut de ceux qui nous entourent et pour que nous entrions dans l'appel que tu nous as adressé, Seigneur. Amen. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Mais que ces paroles qu'on a dites, répétées, confessées des dizaines de fois parfois, qu'elles soient encore rafraîchies, qu'elles prennent encore plus de sens, parce que c'est une parole éternelle, une parole vivante, une parole qui n'est pas liée, même par notre incompréhension et par nos traditions, une parole qui libère, une parole qui ouvre et qui amène la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons, Jésus. Amen. On va continuer de recevoir dans tout ce temps de prière, de prière, le Saint-Esprit, on va continuer. Alors qu'on va prier pour tel et tel sujet, eh bien sûr, on va ouvrir le chemin pour qu'il puisse se manifester. Et on va continuer peut-être par un moment, avec un support musical et un temps dans lequel, eh bien, Dieu va agir au milieu de nous. Amen. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire, dans l'Église, dans toutes les générations, au siècle des siècles. On va, alors, pour une façon de l'accueillir, on va lui souhaiter la bienvenue encore. On l'a fait plusieurs fois, hein, avec l'applaudissement, avec les cris de joie, mais on va encore le faire en disant, Seigneur, viens, 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 à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi le règne, à toi la domination de toutes choses, viens remplir au nom de Jésus. Amen. Accueillons-le ensemble par des applaudissements de foi, d'adoration, de louange, d'action de grâce. Viens, 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 viens. Oh, viens. Alléluia. Viens, 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 viens. Alléluia. Remplis, remplis. Établis Jésus sur le trône, viens, alléluia, que la vie triomphe, que la lumière brille. pour la guérison, la louange, j'aime promptement. Alléluia. Encore, 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 encore. On élargit, on élargit, on élargit. On veut pas juste quelques gouttes, on veut l'abondance, l'abondance, l'abondance du fleuve d'eau vive. Je suis aujourd'hui, jaillisse dans nos cœurs, par l'Esprit Saint. Alléluia, alléluia. Que le salut se répande, que la guérison se répande, que la délivrance se répande, que le règne de Jésus soit manifesté, que la gloire de Dieu touche, touche, touche nos familles, notre vie, notre région, notre nation. Alléluia. On peut continuer en langue pendant quelques instants. Furent tous remplis de son esprit, ils se mirent à l'adorer en langue et à prophétiser. Si vous devez vous pouvez nous quitter maintenant ou plus tard, c'est comme vous voulez. Mais on va continuer en langue pendant quelques instants, parce que c'est une bonne façon de lui faire la place.